Amen. Merci Seigneur. On va partager la parole ensemble.
Je vais vous inviter à ouvrir la Bible dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, et le chapitre 61. Je voudrais vous poser une question pour commencer, et je vais vous dire que la réponse se trouve dans le texte qu'on va lire. Enfin, ça dépend de nous. La question c'est celle-ci. Est-ce que nous voulons vivre une année de grâce? Normalement, tout le monde dit oui, ou amen, ou quelque chose. Et ça tombe bien parce que Dieu, dans sa parole, nous montre comment. C'est pas que Dieu veut, c'est sûr que Dieu veut. On n'a pas besoin de se poser la question sur la volonté de Dieu. Dieu le veut. Mais dans ce texte, il nous montre comment cela peut être possible. Ésaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Vous savez, vous qui connaissez la parole, que ce texte, cette prophétie de l'Ancien Testament, Jésus se l'est approprié. Jésus a osé se l'approprier. Ça, c'était surtout ce que pensaient les chefs religieux qui le voyaient faire. Mais nous, on sait qu'il avait raison de se l'approprier, parce que s'il y en a bien un qui a reçu l'onction de Dieu pour faire tout ce qui est listé ici, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, Christ veut dire celui qui a l'onction. Le Messie, ça veut dire celui qui a l'onction. Jésus-Christ n'est pas surnommé ainsi pour rien. Il est celui qui a parfaitement reçu l'onction de Dieu. Et quand on voit ce à quoi lui a servi l'onction du Seigneur, on peut se dire que quand même ça valait la peine. Pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer la liberté aux captifs, donner la délivrance. Et entre toutes ces belles choses, la consolation, le renouvellement, la fortification, il est question de publier une année de grâce. Vous savez que même le mot année va plus loin en hébreu puisque c'est une période. C'est pas juste une année. C'est un temps non défini finalement qui tranche avec ce jour de la vengeance. Savez-vous qu'un jour, il va y avoir la vengeance? Dieu va faire parfaitement justice et ça va barder sur la terre pour tous ceux qui n'auront pas fait la paix avec lui. Mais en attendant, nous sommes dans l'année et même dans la période de la grâce. Et dans cette période de grâce, nous pouvons bénéficier par la foi de l'onction du Seigneur qui fait tout ce que nous venons de lire. Consoler, réjouir, revêtir de louanges, rebâtir. Parfois, il y a des choses. Alors, ça concerne vraiment le peuple d'Israël qui a vu son pays dévasté et Dieu lui donnait cette promesse qu'il allait reconstruire ce pays. Il allait le renouveler, ce pays. Mais autant physiquement ça s'est passé que spirituellement, par la venue de Jésus-Christ, le pays a commencé à être rebâti et Israël a été un pays qui a influencé toutes les nations de la terre jusqu'à aujourd'hui. Hein. La foi s'est répandue juste par quelques simples hommes juifs qui ont cru en Jésus et qui ont reçu eux aussi l'onction. Savez-vous que l'onction, c'est pas quelque chose que Dieu nous donne pour qu'on se sente bien? C'est pas pour qu'on dise « Ah, mais c'est bien, j'ai vécu un bon moment dans le culte, ça m'a fait du bien l'onction. » C'est pas ça. L'onction dans la parole de Dieu, c'est toujours pour une mission. C'est toujours pour un objet défini à faire. Dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, le roi devait recevoir l'onction pour régner. Le sacrificateur devait recevoir l'onction pour faire tout le service sacré. Le prophète devait recevoir l'onction pour donner les paroles. Nous ne sommes pas là. Bien sûr que quand on reçoit l'onction, ça fait du bien. Mais c'est pour qu'on fasse du bien à notre tour. Pour qu'on accomplisse la mission. Alors, c'était juste l'introduction. Je ne vais pas m'étendre plus. Mais je voudrais parler ce matin de 7 gages d'une année de grâce. 7 actions à pratiquer qui nous garantissent,
qui nous donne l'assurance que nous allons vivre une année de grâce. Et on trouve cela dans le livre des Hébreux. Donc maintenant, après avoir parlé de l'Ancien Testament, on va parler du Nouveau. C'est très intéressant dans le livre des Hébreux de voir les moments où il est question de la grâce. À 7 reprises, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va parler de la grâce. Et à chaque fois, il y a un enseignement à retirer qui nous fait du bien. Donc le premier, c'est dans Hébreux chapitre 2 et le verset 9. Le premier gage d'une année de grâce, c'est de rappeler constamment la croix. Hébreux 2, verset 9. « Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Amen. » Par la grâce de Dieu, Jésus a souffert la mort pour tous. Est-ce que vous êtes heureux de savoir que vous n'avez pas besoin de souffrir la mort de la croix? Parce que Jésus l'a soufferte pour tous. Quand on lit le récit de l'évangile sur la crucifixion, c'est clair qu'on n'a pas envie de le vivre nous. Et on sait que Jésus a pu vivre dans ce corps de chair, ce moment-là de la passion, soutenu miraculeusement par Dieu, parce qu'il aurait pu mourir plusieurs fois. Sur le chemin, sous les coups de fouet, etc. Il y avait plein d'occasions que son corps lâche, mais il a été soutenu miraculeusement jusqu'à la croix pour mourir, expirer, en disant que tout est accompli. L'onction qu'il a reçue s'est parfaitement accomplie au moment de la croix. Pour sa mission, c'était de souffrir pour tous. Alors que Jésus souffre pour tous, ça ne veut pas dire que nous, on n'a rien à souffrir. On sait que c'est pas comme ça. Mais, en tout cas, si on veut vivre une année de grâce, il faut constamment être dans cette reconnaissance de ce que Jésus a fait à la croix et porter en nous les traces, l'empreinte de l'œuvre de la croix, parce que c'est quelque chose qui continuellement agit dans ceux qui croient. Regardez par exemple le verset 10, les conséquences de cela. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Dieu a une ambition nous concernant, c'est de nous élever à la perfection. Vous allez me dire, il a du boulot. Et vous avez raison. Mais pour que cela puisse se faire, que des hommes pécheurs puissent être élevés à la perfection, ça ne peut se faire que parce que Jésus a souffert la mort pour tous à la croix. Et c'est ça, de rappeler l'œuvre de la grâce, rappeler l'action de la grâce dans la vie du croyant. Dieu désire que nous fassions des progrès. Quelqu'un qui marche de progrès en progrès, il est en train de publier, de rappeler la grâce et la croix dans son corps, dans sa vie, dans son caractère. Et c'est tellement important. Au verset 14, il est question d'un Jésus qui anéantit celui qui a la puissance de la mort. Il est question d'un Jésus qui délivre ceux qui sont dans la crainte de la mort. Dieu est celui qui, par la grâce, nous permet de vivre ces réalités où l'ennemi qui avait des ruses, des stratégies à notre encontre et qui nous asservissait n'a plus autant de force et de pouvoir dans nos vies parce que, simplement, nous croyons en l'œuvre de la croix. Et nous sommes passés, on l'a vu il y a quelque temps, des ténèbres à la lumière. On est dans une autre réalité du royaume de Satan. À Dieu. On est délivré. Est-ce que vous avez peur de la mort? Est-ce que vous avez peur de ce moment? Alors, parfois, on a peur de la façon dont on va mourir. Ça peut se comprendre. Mais de faire le pas pour aller dans l'au-delà, on n'a pas peur parce qu'on sait où c'est qu'on va. On va dans la présence de Dieu. Et parfois, presque on soupire comme l'apôtre Paul en disant « Je préférerais de loin partir vers mon Seigneur parce que là, je sais que je serai dans la paix, dans la joie. Mais si je reste sur la terre, c'est que le Seigneur a une mission pour moi et je sais que sans l'onction de Dieu, je ne pourrai pas accomplir la mission. Alors Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, visite-moi. Mais quand je me rappelle de l'œuvre de la croix et quand je proclame la puissance de la grâce, eh bien, je suis sûr de vivre dans cette période qui s'ouvre devant moi. » Une année de grâce. Regardez le chapitre 4 et le verset 16. Un deuxième gage d'une année de grâce. Alors, je ne vais pas rentrer précisément dans toutes les 7 gages parce que ça fera beaucoup. Mais il y en a certains qu'on va survoler. Donc, rassurez-vous. Mais je voudrais insister sur au moins les trois premiers. Hébreux 4, verset 16, un verset qu'on connaît par cœur. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Amen. Premier gage, première garantie pour vivre une année de grâce, c'est de rappeler la croix dans notre vie et de rappeler que l'ennemi n'a pas l'avantage parce que nous sommes les enfants du Seigneur et il nous fait évoluer vers la perfection. Mais le deuxième gage, c'est de s'approcher du trône. S'approcher du trône de la grâce. Celui qui prend l'habitude de s'approcher du trône de la grâce, forcément, il va vivre une année de grâce. C'est obligé, parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Regardez, il est dit quoi ? Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver grâce. C'est pas difficile, hein ? Et parfois on est là, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce. Mais approche-toi du trône de la grâce. Oui, il est question de nos besoins, il est question d'obtenir miséricorde, il est question de plein de choses, d'être secouru. Mais approchons-nous, prenons l'habitude. Et quand on prend ces saintes habitudes de nous approcher du trône de la grâce, nous avons un Dieu qui est là sur son trône. Approchons-nous avec assurance, ça veut dire quoi ? C'est quelle assurance dont il est question ? C'est l'assurance d'un roi qui a compassion. Regardez le verset 15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Jésus a compassion de nous. Jésus qui a été dans un corps de chair, c'est ce à quoi nous sommes soumis comme pression. Mais lui n'a jamais failli. Il sait comment nous aider à nous pour ne pas faillir. Mais pour ne pas faillir, il faut nous approcher du trône de la grâce. Nous avons sur le trône un roi qui a compassion de nous. Parfois, on peut se sentir jugé, alors que c'est pas le cas. Parfois, on peut se sentir condamné. Mais devant le Seigneur, ayons cette assurance qu'il n'est pas un Dieu qui nous condamne. Oh, vous savez, notre péché, quand on l'entretient, il nous condamne. Ça, c'est sûr, hein. Mais Dieu est toujours celui qui appelle. Dieu est toujours celui qui exhorte à la repentance. Et il est celui qui veut nous faire grâce, qui veut nous donner miséricorde. Nous avons un roi qui nous reçoit. Et oui, vous savez qu'au temps de l'Ancien Testament, quand il fallait aller voir le roi, ben c'était une affaire compliquée, hein. Il fallait pas se présenter les mains dans les poches et comme on avait envie. Il y avait tout un protocole pour voir le roi. Et si le roi il était pas bien luné ce moment-là, il pouvait décider de nous mettre à mort. Donc, je peux vous dire, ceux qui voulaient aller voir le roi, il fallait que ça soit très important et qu'ils le fassent correctement. Mais nous n'avons pas ces problèmes avec notre Seigneur. On peut s'approcher avec assurance parce qu'on sait qu'il va nous recevoir. Si Dieu ne voulait pas nous recevoir, est-ce que vous pensez qu'il y aurait marqué ce verset dans la Bible ? Approchons-nous avec assurance. Il y a un autre verset, je crois que c'est dans Jacques, qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Dieu ne désire qu'une chose, c'est qu'on puisse venir auprès de lui. Et quelqu'un qui a pris cette sainte habitude de venir dans sa présence, obligatoirement va vivre la grâce dans sa vie. Nous avons l'assurance d'un roi qui nous donne aussi. Il nous donne sa miséricorde, il nous donne sa grâce, c'est ce qu'il dit dans le verset. Il nous donne son secours, il nous donne la réponse à nos besoins, parce qu'il nous aime. Approchons-nous avec assurance. Ce matin, je ne sais pas quels sont vos besoins, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un roi qui répond à nos besoins et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on s'approche de lui. Vous allez me dire, mais je suis venu à l'église, donc je me suis approché de Dieu. Oui, mais ça, c'est trop facile. On peut venir tous les dimanches à l'église et ne pas s'approcher de Dieu. Parce qu'il y a notre cœur qui doit s'approcher de Dieu. Notre corps s'est approché d'une certaine manière, d'un endroit où on entend la parole, mais notre cœur doit s'approcher du Seigneur. Regardez, je pense souvent à ces personnes qui, dans une foule, je pense à la femme, à la perte de sang, dans la foule, qui est là, qui oppresse le Seigneur. Tout le monde touche le Seigneur, tout le monde le bouscule. Il y en a une qui le touche. Pourtant, elle est parmi toute la foule. Mais elle est guérie, miraculeusement. Parce qu'elle s'est approchée du Seigneur. Alors que tous les autres étaient au contact, mais leur cœur n'était pas prêt. C'est de cette manière-là que nous devons nous approcher de notre Seigneur. Nous devons aussi honorer le Saint-Esprit. On va aller dans le chapitre 10. On va comprendre ce dont il est question. Alors, je vais pas rentrer dans les détails profonds de ce texte qui est très très riche, puisque c'est pas le but ce matin. Mais regardez, chapitre 10, verset 28. Il y a ce parallèle. Alors, vous savez que c'est le livre aux Hébreux, donc c'est écrit à des Juifs qui se sont convertis, qui ont cru en Jésus-Christ, le Messie. Donc, il y a ce parallèle entre la loi et entre la grâce. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Alors c'est un texte, je vous l'ai dit, qui est un peu ardu, mais je voudrais prendre cette dernière expression pour la tourner à notre avantage. On nous exhorte à ne pas outrager l'Esprit de la grâce. Moi, je vous dis que si nous voulons vivre une année de grâce, il faut honorer le Saint-Esprit. Ne pas outrager, c'est honorer. Alors, je rentre pas dans les détails de ce dont il est question dans ce contexte, mais de cette réalité qu'il faut honorer le Saint-Esprit dans son œuvre, dans ses actions, dans ses paroles, dans sa façon de faire qui ne coïncide pas toujours avec notre façon à nous, mais quand le Saint-Esprit agit, il agit et il agit conformément à la parole de Dieu. Si parfois on peut avoir des doutes, c'est bon de se plonger dans la parole de Dieu et de voir si ça correspond. Parce que le Saint-Esprit ne fera jamais quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Puisque Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un. Ils ne peuvent pas faire de choses différentes. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, il prendra de ce qui est au Père et ou de ce qui est à lui, à Jésus, et puis il le donnera à ses disciples. Comment peut-on outrager le Saint-Esprit? En méprisant son action. En foulant aux pieds ses grâces. Alors, je vais vous faire grâce de tous les versets que j'ai notés, mais dans le livre aux Hébreux, on trouve plusieurs fois les allusions de ce que fait le Saint-Esprit. C'est très intéressant. Mais il est question qu'il distribue ses dons selon sa volonté pour appuyer le témoignage des croyants. Cette semaine, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit que dernièrement, il a entendu une prophétie dans une église. Une église du département, mais je vais pas préciser plus, hein. Et cette prophétie, il m'a dit, ça a fait totalement mouche dans son cœur. C'était l'expression qu'il a employée. Il était en train de se poser la question, de se dire, mais Seigneur, tu vois, ça fait des années que je me pose ces questions-là, et j'ai l'impression de pas avancer, j'ai l'impression de tourner en rond. Et la prophétie a dit ceci. Tu te poses des questions depuis des années. Et le Seigneur te demande d'ouvrir ton cœur, et un baume va être déversé sur ton cœur, et les questions vont être répondues. Qu'est-ce que vous faites quand vous entendez ça? Mais cette personne, elle a dit, mais Seigneur, merci. Quand le Saint-Esprit parle à nos cœurs, je suis persuadé que ce qui a été dit tout à l'heure dans une prophétie, ça parle à quelqu'un ce matin. Mais c'est là où on se positionne entre outrager le Saint-Esprit ou honorer le Saint-Esprit. Outrager, c'est-à-dire je méprise. Ouais, mais ça c'est qu'un homme, c'est qu'une femme qui l'a dit. Je n'en tiens pas compte. Ou alors, je crois que le Saint-Esprit utilise des hommes et des femmes qui recherchent, qui supplient, qui, il est dit, de soupirer, d'aspirer aux dons spirituels, d'aspirer aux dons les meilleurs, afin de pouvoir bénir. Et quand on est dans cette disposition de cœur, quand on prend ce que le Saint-Esprit donne à chacun selon sa volonté, et de cette manière-là, on honore son œuvre. Il parle aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, c'est ça qui est dit dans les Hébreux, hein. N'endurcissez pas son cœur. Il parle, vous allez me dire, oui, il parle quand on ouvre la Bible, il parle, oui. Mais parfois, il parle même dans les conversations que l'on a avant ou après. Parfois, le Seigneur nous montre des directions précises. Parfois, il parle au travers des chants. Ça m'est arrivé souvent d'entendre les gens qui disent, ah, je me posais une question sur tel ou tel domaine et ce chant a répondu à ma question. Mais oui, parce que ceux qui cherchent la face de Dieu pour préparer les chants, ils le font pas au hasard, ils cherchent le Seigneur.
N'est-ce pas, Philippe? Tu confirmes? Joël, vous confirmez? Vous qui êtes des chantres ici? Voilà, on se tient devant Dieu. C'est pas, on n'est pas là pour occuper un temps dans le moment du culte, mais on est là pour que le Saint-Esprit se manifeste. C'est pour ça qu'il faut toujours rechercher à honorer le Saint-Esprit en écoutant ce qu'il veut nous dire. Vous remarquez souvent, alors qu'on ne se donne pas les mots pour sur les textes, sur les versets qu'on va partager, souvent il y a cette unité du Saint-Esprit qui fait que toutes les choses vont vers une pensée qui est appuyée. Et quand j'honore le Saint-Esprit, c'est que je suis sensible à cela. Je suis sensible à la façon dont le Saint-Esprit agit dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Je suis sensible à la façon dont le Seigneur manifeste sa puissance. Je pourrais détailler beaucoup de choses. Je veux juste rappeler cette dernière œuvre. Il y en a beaucoup à dire, mais il est celui qui purifie. Il rappelle que le sang de Jésus purifie notre conscience. Quelqu'un qui veut honorer le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui accepte de laisser le sang de Jésus purifier sa conscience. Est-ce que vos consciences sont pures? Vous ne répondez pas à moi, hein. Mais parfois, oui, on peut avoir une conscience pure, hein. Paul dit, dans une conscience pure, je suis droit devant Dieu. Il y a des fois où on a cette sensation-là, puis il y a des fois où on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas pur. Mais parce qu'on honore le Saint-Esprit, on vient purifier notre conscience dans la présence de Dieu. Ça, c'est honorer le Saint-Esprit. Quelqu'un, et ça rejoint un peu le contexte de ce verset qu'on vient de lire, quelqu'un qui résiste, quelqu'un qui ne revient pas à la croix alors qu'il a la conscience qui n'est pas pure, il est en train d'outrager l'esprit de la grâce. Remarquez ce qu'il est dit, c'est l'esprit de la grâce. C'est pas juste, il outrage la grâce que Dieu lui a fait. Non, il outrage la personne du Saint-Esprit qui est l'esprit de la grâce. Oh, je trouve que c'est beau. L'esprit de la grâce. C'est l'esprit qui veut manifester la grâce de Dieu dans ma vie. Et c'est sûr que si je l'honore, cet esprit de la grâce, je vais vivre la grâce de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas possible autrement, parce que Dieu est fidèle à sa parole. Regardez la quatrième pensée qui est là dans Hébreux 12, verset 14, d'ailleurs qui peut être lié à ce qu'on vient de dire. Parce que parfois on pourrait juger à l'emporte-pièce certaines choses qui se passent. On pourrait juger des façons de faire et cela dans l'église et oublier de veiller sur nos frères, c'est ce qu'il est dit là. Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Savez-vous que vous êtes les gardiens de vos frères et de vos sœurs? Je parle pas des gardiens de prison qui doivent tout contrôler, d'accord? Parce que des fois on a ce rôle à cœur et on est les ceux qui sont là, qui mettent la pression sur ceux qui sont autour de nous. Non, c'est pas ça. Mais on est, puisqu'ils sont nos frères et nos sœurs, on doit être les gardiens de ceux qui veillent à ceux qui ne se privent pas de la grâce. Si on voit quelqu'un qui est en train d'aller dans des mauvaises attitudes, on doit être là à ses côtés en disant « Fais attention, tu es en train de te priver de la grâce. » Quelqu'un qui est en train de tomber, et il est précisé, dans l'amertume, dans le non-pardon, on doit être de ceux qui alertent. « Fais attention, tu vas sur un mauvais chemin. » Mais on les alerte, ces personnes, pourquoi? Parce qu'on les aime, parce que ce sont nos frères. On va pas dire ça à quelqu'un dans la rue qu'on ne connaît pas. D'accord? Bon, à moins que le Seigneur nous y pousse, hein. Mais de manière générale, c'est à ceux qui nous sont proches, les frères et sœurs dans l'Église, sur qui nous devons veiller. Sur qui nous devons avoir cet œil de grâce, justement, afin que eux ne se privent pas de la grâce de Dieu. Et j'aime l'équilibre de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous aimez la façon dont elle dit les choses, mais je suis subjugué, moi, par cette façon de parler. Ce verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. » Parfois, on est là, oui, on veut la paix. On veut la paix, à tout prix. On veut la paix, quel qu'en soit le prix. Est-ce que vous aimez la paix? Bon, normalement, on aime tous ça. Parce que quand les gens se tapent les uns sur les autres, c'est pas agréable. Il suffit de voir comment les hommes politiques se traitent entre eux. Voilà, ça nous donne pas envie.
Et on a raison de rechercher la paix, puisque c'est marqué là. Mais on ne peut pas rechercher la paix toute seule. On doit rechercher aussi la sanctification. Il doit y avoir cet équilibre entre la paix et la sainteté. Parfois, j'ai entendu des chrétiens qui savaient qu'il y avait des scandales à une époque et qui me disaient, pour justifier, je n'ai pas voulu troubler la paix de l'Église, alors je me suis tu. Et c'est là où on se trompe dans la recherche de la paix. Parce que rechercher la paix, c'est pas au prix de la sainteté, au prix de laisser l'impureté courir. La paix, ce n'est pas un vernis que l'on met sur le péché pour pas faire de bruit. La paix, c'est une paix sainte et profonde. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui se va à l'extérieur. Mais s'il y a quelque chose à régler, il faut le régler, bien sûr, dans la paix. Faut pas le faire en faisant un scandale, en voulant régler les choses qui sont déjà des scandales. Vous comprenez? Avoir cette attitude de grâce. Et on a aussi parfois les extrêmes. Ceux qui troublent la paix pour tout et pour rien, pour des sujets qui n'en valent pas la peine. La sainteté, elle se recherche dans la paix et la douceur. Vous comprenez cet équilibre? C'est pour ça que je dis ce verset, il est merveilleux. Moi, je m'y suis penché un moment, c'est pour ça que je suis encore sous le choc. Et je vous le laisse pour que vous puissiez y réfléchir, mais regardez comment c'est dit, rechercher la paix et la sanctification. Seigneur, aide-nous à être de ceux qui veillent sur nos frères et sur nos sœurs, pour que personne ne se prive de la grâce. Vous savez, le Seigneur nous donne, le Saint-Esprit en nous donne cette sensibilité. Il y a des moments où on discerne qu'il y a un frère qui a besoin peut-être d'un coup de fil, qui a besoin d'une visite, qui a besoin d'une parole d'encouragement. Et on le ressent. C'est comme s'il portait sur lui, sans qu'il nous dise quoi que ce soit, il porte sur lui sa tristesse. Et on a besoin d'aller le voir. Mais pas d'aller le voir les mains dans les poches, avec une parole de grâce qui va pouvoir lui faire du bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui retentit dans votre cœur? Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas en train de parler? C'est le moment de dire, Seigneur, je veux vraiment que tu ailles au fond des choses dans mon cœur. Je veux que tu me donnes cette paix. S'il y avait en moi des racines d'amertume, Seigneur, je veux qu'il y ait ton pardon. Je veux qu'il y ait ta présence qui vienne me donner ce calme, ce repos dont j'ai besoin. On va passer rapidement aux trois derniers. Hébreux 12, donc c'est toujours ce même chapitre, mais le verset 28. Le cinquième gage d'une année de grâce, c'est de savoir dire merci. Alors celui-là, il est un petit peu caché dans le verset. Regardez. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte. Le mot reconnaissance, littéralement, c'est le mot grâce. Montrons notre grâce en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Littéralement, c'est ce qu'il est dit. Alors, bien sûr, Dieu nous fait grâce et à un moment donné, la grâce que nous vivons nous amène à donner des actions de grâce à notre Dieu, à vouloir faire quelque chose pour lui. On ne fait pas quelque chose pour Dieu pour essayer de gagner quoi que ce soit, mais parce qu'il a tellement fait pour nous, on n'a qu'une envie, qu'un désir, c'est de faire tout ce qu'on peut pour lui. Littéralement d'ailleurs, le mot culte, c'est un mot qui veut dire service, rendant à Dieu un service qui lui soit agréable. Ça fait réfléchir tout ça, hein ? Quelqu'un qui veut dire merci au Seigneur, qu'il sait dire merci au Seigneur, qui le dit par sa bouche, qui le dit par sa louange et qui le dit par sa vie, qu'il met à son service, obligatoirement, il va voir une année de grâce. Regardez le chapitre 13, on approche de la fin. Chapitre 13, verset 9. Voilà ce que nous lisons. Le sixième gage d'une année de grâce est d'affermir son cœur. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Souvenez-vous que l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle aux Juifs. Certains ont cru en Jésus, certains ont mis leur foi dans le sacrifice de la croix, mais à un moment donné se sont laissés piéger par des doctrines qui disaient Jésus c'est super, le Messie c'est super, mais il faut continuer à faire des sacrifices. Il faut continuer à pratiquer certaines ordonnances de la loi. Et il y avait ce combat qui était là dans le cœur, et c'est pour ça que il y a cette exhortation qui est faite, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Ils vont dire, oui, mais la loi, c'est pas une doctrine étrangère. Oui, mais la loi associée à la grâce de cette manière-là, et qui remet en question la grâce finalement, ben ça ne fonctionne pas. Vous savez que les pharisiens avaient une façon de comprendre l'Ancien Testament qui ne correspond pas du tout à celle que Dieu avait voulu donner. Il suffit de lire Matthieu 5, 6 et 7 pour comprendre. Jésus qui fait que dire, vous avez été, on vous a enseigné, voilà ce qui vous a été dit, mais moi je vous dis ceci. On vous a dit d'aimer votre prochain et de haïr votre ennemi, mais Jésus nous dit pas ça. Et il nous explique que la loi doit être comprise de cette manière-là. La loi, pour bien se comprendre, la loi de Moïse doit se comprendre avec l'œil de la grâce. Voilà pourquoi ce qui affermit le cœur d'un croyant, avant tout, c'est la grâce. Avant toute chose. Et une doctrine, quelle qu'elle soit, si elle ne met pas en valeur la grâce de Dieu, ben, on peut la jeter. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est ce qu'il est dit là, de manière plus courante, je vous le dis. Ne vous laissez pas entraîner par ces doctrines qui ne glorifient pas l'œuvre de la grâce. Mais votre cœur va être affermi parce que quand vous réalisez vraiment que Dieu veut faire grâce à vos vies, votre cœur va être affermi par cette compassion et cet amour de notre Seigneur. Toujours se poser cette question, est-ce que cette doctrine, vous savez, on regarde beaucoup de choses sur Internet, on entend beaucoup de choses, mais est-ce que ça repose sur l'œuvre de la grâce? Ou est-ce que ça remet en question? Il y a des détails qui chiffonnent. Ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Mais alors je m'en abstiens. Affermissons nos cœurs par la grâce de la saine doctrine que le Seigneur nous a laissée. Et regardez le dernier verset, très court, qui est ma prière aussi pour vous. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dernier gage d'une année de grâce, c'est de voir la grâce à l'œuvre. Que la grâce soit avec vous. La grâce, elle est déjà présente. La grâce, elle est déjà là par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là dans ce lieu. C'est l'Esprit de la grâce. La grâce est devant nous. Que la grâce soit avec nous, ça veut simplement dire que elle nous est offerte encore une fois. Mais c'est à nous de venir puiser. C'est à nous de sortir les bouteilles et tout ce que nous pouvons, les contenants. Alors en fait, c'est notre cœur. Et de venir se mettre sous la cascade de la grâce maintenant et de dire, Seigneur, donne-moi. Je veux prendre tout ce que tu veux me donner. Et quelqu'un qui a cette disposition de cœur-là, quelqu'un qui a à cœur de faire tout ce qu'on a cité, c'est quelqu'un qui obligatoirement va vivre une période de grâce. Et ça va pas s'arrêter à 2022, mais ça sera en 2023, 2024, 2025, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Peu importe, mais la grâce du Seigneur coule sur nous. On va fermer les yeux quelques instants. L'Esprit du Seigneur est sur nous ce matin, frères et sœurs. Il est là pour consoler les affligés. Il est là pour publier cette année de grâce. Pour libérer les captifs. Quelqu'un est peut-être captif. Quelqu'un ce matin est dans cette prison spirituelle. Quelqu'un est dans l'affliction. Il a cette tristesse dont il n'arrive pas à sortir. Il y a une grâce pour toi, mon frère, ma sœur. Quelqu'un est là dans l'inconnu par rapport à l'avenir. Il y a une peur par rapport à l'avenir, une inquiétude. Mais il y a une grâce pour toi ce matin. Parce que l'Esprit de la grâce est dans ce lieu. Il est sur nous, il veut nous oindre ce matin. Pour que nous soyons de ceux qui publient une année de grâce. Oui, il veut que nous la vivions cette année, mais il veut que nous la publions aussi autour de nous. Qui va ouvrir son cœur? Qui va être celui qui va rebâtir sur d'anciennes ruines? Qui va relever des décombres? Qui va repartir dans des projets qui ont été arrêtés à un moment donné, mais que le Saint-Esprit dit de revenir maintenant? C'est le moment de venir puiser à sa grâce. C'est le moment de laisser la grâce du Seigneur couler avec abondance. C'est le moment de s'approcher du trône de la grâce. C'est le moment d'avoir cette assurance que le roi des rois nous regarde avec ce regard de compassion et que sa main est tendue vers nous maintenant et que nous pouvons la saisir par la foi. Éternel, nous te présentons chacune de nos vies. Nous te présentons chacune
de nos existences. Et nous voulons te dire, oui, nous voulons vivre un temps de grâce. Nous voulons que notre Église vive un temps de grâce. Nous voulons que toutes les églises de ce département vivent un temps de grâce. Nous voulons que ce pays de France soit visité par des temps de rafraîchissement. Ô Seigneur, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont affligées, tellement de personnes qui sont captives autour de nous, tellement de personnes qui sont dans des vies détruites, Seigneur, qui sont dans la désolation, le désespoir. Et nous voulons être, nous, porteurs de ce message, porteurs de cette publication de ta grâce. Mais nous savons que nous avons besoin de ton onction. Alors que ton onction soit déversée sur nous ce matin, Seigneur. Que ta bénédiction repose sur tes enfants. Que, Seigneur, celui qui ouvre son cœur à ta parole, que celle qui va, Seigneur, venir boire goulûment, Seigneur, à la source de la grâce, puisse être, Seigneur, béni de ta part maintenant. Puisse être rafraîchi spirituellement, renouvelé au plus profond de son âme. Seigneur, tu veux éveiller en nous une sainte ardeur, un zèle nouveau pour toi, pour te chercher davantage et pour te connaître mieux. Seigneur, nous sommes là à tes pieds. Oui, nous voulons te dire merci et nous voulons te servir, te rendre ce culte qui t'est agréable dans chacune de nos vies, Seigneur. Marque-nous de ta présence. Renouvelle en nous ton alliance par ta grâce. Merci Éternel pour ce que tu fais. Tu connais les besoins, tu connais les pensées secrètes, les questions cachées. Rien ne t'est inconnu, mais tu es là pour répondre. Et nous te bénissons, Seigneur. Amen.